quoi le plan ? Une effervescence d'avenir, d'égalité et de justice secoue la France et le monde. Jusqu'à présent, elle n'a pas su enclencher le frein d'urgence sur la voie des catastrophes planétaires et des dominations quotidiennes. Nous avons fait l'expérience de la force immense que nos luttes devront accumuler ensemble pour ébranler l'ordre existant. C'est quoi le plan ? Un podcast de la revue Contretemps propose de débattre de toutes nos stratégies pour bâtir un autre monde. Parfois, par chance, nous avons vu le monde d'après. Dans C'est quoi le plan ? Nous accueillons toutes les voix de celles et ceux qui en cherchent les chemins. Tous les guides de survie, les programmes, toutes les transitions, les planifications, tous les plans d'attaque nourrissent le débat stratégique. D'une façon ou d'une autre, les empires d'aujourd'hui seront les cendres de demain. Ils pourraient bien entraîner l'humanité dans leur chute. Alors, quel autre horizon nous reste-t-il ? Que faire pour l'atteindre ? Nous vous offrons une nouvelle réponse à chaque épisode de C'est quoi le plan ?
Bonjour à toutes et tous, je suis Théo Roumier, membre de la rédaction de Contretemps, et dans cet épisode de C'est quoi le plan, nous recevons Céline Marty et Simon Duteil. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Céline, tu as publié en début d'année un petit ouvrage, Découvrir Gorce, dans la collection Les Propédeutiques des éditions sociales, et ce mois-ci, tu fais paraître aux Presses universitaires de France un ouvrage tiré de ta thèse et intitulé L'écologie libertaire d'André Gorce. Simon, toi, tu as été co-porte-parole de l'Union syndicale solidaire de 2020 à 2024. Tu es redevenu un militant de base de ton syndicat Sud-Éducation depuis. C'est mon cas également d'ailleurs. Et tu as aussi été l'un des artisans de l'Alliance écologique et sociale créée en 2020 dans la foulée du Covid, initialement appelée Plus Jamais Ça, que tu vas un peu plus nous présenter tout à l'heure. Alors en vous réunissant ici, notre idée à contre-temps était de voir dans quelle mesure les idées, les propositions défendues par André Gorce sur l'autogestion, l'écologie, le syndicalisme, mais aussi la technique, la science, l'université ou l'école, non seulement avaient encore une actualité, et aussi, surtout, en quoi elles rencontraient les préoccupations, l'intervention, les stratégies des syndicats, des associations, des mouvements sociaux aujourd'hui. Mais bon, peut-être un petit peu que pour se lancer, on pourrait déjà, Céline si tu veux, revenir un peu sur le philosophe, journaliste et militant, puisque c'est l'introduction de ton petit Découvrir Gorce qui s'intitule comme ça, qu'il a été André Gorce. Et Simon, tu nous parleras juste après de l'Alliance écologique et sociale.
Oui, alors André Gorce, né en 1923 en Autriche, il fuit en Suisse dans le contexte de l'antisémitisme dans les années 40, il s'y forme, il découvre l'existentialisme un peu en autodidacte, il découvre la philosophie, la littérature, il rejoint la France en 1949 avec les conseils de Sartre qu'il a rencontré en Suisse et il va chercher des petits boulots et il va progressivement avoir un petit boulot de journaliste à côté duquel il aura une activité d'essayiste et c'est dans ce contexte qu'il a deux pseudonymes. André Gorce, c'est son nom d'essayiste. C'est le nom avec lequel il publie aussi ses articles au sein des Temps modernes, qu'il va rejoindre avec Sartre. Et son nom de presse, c'est Michel Bosquet. Et c'est son nom de journaliste, d'abord Paris Presse, ensuite L'Express, et ensuite Le Nouvel Observateur, qu'il cofonde en 1964. Et cette double casquette d'essayiste philosophe et de journaliste engagé sur l'actualité économique, l'actualité sociale et l'actualité écologique, il le garde un peu toute sa vie. Il dévoile cette double casquette dans les années 70. Mais je pense que c'est cette proximité avec cette actualité des mouvements sociaux et actualité économique et sociale qui le permet aussi, qui lui permet d'avoir une approche de terrain très précise et très concrète. Et c'est ce qui fait qu'on a autant de textes sur des actualités très concrètes, par différence avec les textes de philosophie plus classiques qu'on connaît. Donc Gorce est un philosophe autodidacte, on pourrait dire, et c'est pour cela aussi que ses textes sont si singuliers dans ce corpus intellectuel et politique de l'époque. Et donc, son œuvre, commence dans les années 50 et s'étend jusqu'aux années 2000, et donc traite d'énormément de sujets. Les questions de stratégie ouvrière dans le capitalisme keynésien, les questions d'autogestion, les questions ensuite de la crise écologique dont on prend progressivement conscience, de l'aliénation des besoins dans le capitalisme contemporain, d'une volonté de retrouver du pouvoir sur sa vie, sur ses besoins, qui va se transformer dans ce projet d'autogestion du temps, dans les années 1980 avec cet idéal de réduction du temps de travail, puis progressivement de décorrélation de la protection sociale de l'emploi salarié à temps plein avec la défense sur la fin de sa vie dans les années 90 et 2000 d'un revenu inconditionnel. Donc l'œuvre de Gorz traverse en fait toutes ces périodes-là et on peut considérer aujourd'hui que c'est l'un des pionniers de l'écologie politique et de la décroissance en France à formuler dès 1972, l'année du rapport Les limites de la croissance, et qu'il faut travailler moins, produire moins, consommer moins, mais que tout ça, ça va nous permettre de vivre mieux. Donc cet idéal d'une sobriété heureuse, anticapitaliste et décroissante, est formulé dès les années 70.
D'accord, merci du coup, parce que voilà, on va bien sûr revenir sur certains aspects, et plus précisément en lien avec les questions syndicales et du mouvement social. Et du coup, tu te feras un petit peu, parce que je précise que ce podcast sera aussi retransmis sur Spectre, donc du coup, la voix d'André Gorz, les mânes d'André Gorz sont un peu avec nous aujourd'hui à travers toi. Simon, donc du coup, on a souhaité t'inviter pour que, en regard peut-être un petit peu de ce parcours et des réflexions d'André Gorz, tu nous parles un petit peu de ce qui s'est passé avec la création de l'Alliance écologique et sociale, parce que ça nous semblait une traduction, en tout cas une tentative de traduction qui pouvait rencontrer justement une partie de ses préoccupations. Donc, on t'écoute.
L'Alliance écologique et sociale, alors c'est le nom qu'elle porte actuellement, c'est une rencontre et c'est une alliance qui s'est construite à partir de quasiment fin 2019, en fait. Il y a eu un peu des contacts, il y a eu des accélérations avec le Covid début 2020. Ça s'est monté autour d'une rencontre qui est celle de la CGT et de Greenpeace, voilà, et qui a débouché sur l'idée, qui était déjà existante dans pas mal de structures, que pour déborder des visions qui paraissaient antagonistes et des impossibilités qui n'étaient pas réelles, bah, il fallait qu'on le montre, qu'on l'incarne. Donc incarner le débordement entre d'un côté ce que certains considéraient comme des productivistes sans fin que seraient les syndicalistes, et de l'autre côté des gens qui auraient une vision éthérée du rapport au travail et à l'économie que seraient les écologistes, et bah ça a été l'objectif, et c'est toujours l'objectif, de l'Alliance écologique et sociale, alors qui s'est d'abord appelée 12 noms différents. Il y a eu le CUS, il y a eu PJC, plus jamais ça, etc. Et qui s'est constitué autour d'un noyau assez vite, qui s'est stabilisé dans un certain nombre de structures, donc des structures écologistes, les Amis de la Terre, Greenpeace, et puis des structures qui interviennent sur un champ un peu plus large de solidarité. On peut penser à Oxfam, à ATTAC, et des structures syndicales avec la Confédération Paysanne, la CGT, la FSU et Solidaires. Voilà. Il y a eu des évolutions, ça a un petit peu marqué le cadre général, mais en 2023, la CGT, dans son congrès, a décidé de quitter le cadre. Donc, il y a les mêmes, sauf la CGT, aujourd'hui, qui continue de travailler. Très vite, ce regroupement s'est dit, bon, comment on fait pour matérialiser un petit peu les choses? Et on a eu une chance, entre guillemets, c'est la lutte qui était menée à Chapelle d'Arblay. C'est la banlieue proche de Rouen. C'est, Chapelle d'Arblay, une usine de retraitement de papier et de transformation de papier, pour faire court, liquidée, non pas pour quelques déficits, mais pour un truc de concurrence internationale et mondiale sur le prix du papier. Voilà. Usine qui retraitait un tiers du papier en France et qui transformait de façon... Alors, c'est toujours difficile de dire vertueux quand on est sur de la transformation, mais en tout cas, bien plus intéressant que beaucoup, beaucoup de structures qui existent aujourd'hui en termes industriels. Il y a eu tout un combat pour rouvrir cette usine, qu'elle puisse refonctionner pour avoir cette utilité à la fois sociale pour les emplois et des compétences acquises qui existaient autour dans le bassin, autour de Rouen, et puis sur une finalité écologiste, parce qu'on a bien besoin aussi d'être capable aujourd'hui de recycler un grand nombre de choses. Bon. Donc ça, c'était un peu le combat consubstantiel au départ. Et après, il y a eu pas mal d'évolutions, peut-être on reviendra dessus, mais on a sorti des plans, c'est-à-dire qu'on a essayé de se mettre d'accord sur une forme de plateforme commune d'enjeux sur lesquels on pourrait avancer ensemble, ce qui s'est appelé un plan de sortie de crise et un plan d'urgence. Après, on l'avait un peu réactualisé. On a aussi sorti quelques notes comme « pas d'emploi sur une planète morte » pour bien montrer le lien qui pouvait exister entre les deux. Et peut-être ce qui a fait un petit peu plus de bruit après, donc bon, on a bossé sur les questions grand puits, sur les questions d'eau, du bois, mais surtout sur le fret ferroviaire. L'année dernière, il y a eu pas mal de travail qui a été fait sur le sujet. Et là, en ce moment, il y a du boulot qui est fait sur la question de la rénovation thermique des bâtiments, par exemple. Voilà. L'idée de fond, c'est quand même bien casser l'idée que d'un côté, il y aurait les gens qui se battent sur la fin du monde, de l'autre côté, les gens qui se battent sur la fin du mois, et bien montrer que si on n'avance pas ensemble, on a perdu quoi, sur les deux aspects.
Ouais, donc c'est quelque chose qui était un peu résumé. Là, j'ai sous les yeux le petit plan de rupture qui avait été édité hein, par... Alors, plus jamais ça à l'époque, je crois, mais qui disait bien ça, hein, parce que l'heure n'est plus à sortir de la crise, mais à rompre franchement avec tout ce qui la nourrit et la maintient vivace, le capitalisme effréné qui détruit les emplois et les ressources naturelles, qui accentue les inégalités sociales et laisse chaque jour davantage de nos concitoyennes et concitoyens sur le bord du chemin. Hein. Donc, il y a bien cette liaison, cette volonté de faire le lien entre écologie hein, et mouvement social, lutte sociale. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui rencontre réellement la pensée d'André Gorce, hein, dans sa prospective, on va dire, hein, ça, la manière d'envisager comment on va faire pour faire une transition, puisque c'est un grand sujet des années 70, la question de la transition et de la transition au socialisme, hein, avant le mot qui faisait accord pour parler de ce qu'on voulait avec mille nuances, mais c'était celui de socialisme, qui était un mot assumé hein, par André Gorce. Mais avant d'en arriver peut-être à la question de quel type de socialisme il pouvait imaginer, en tout cas, comment est-ce qu'il imaginait y arriver, voir quelle analyse il faisait de la société et en quoi est-ce que ça répond aussi encore aujourd'hui à des problèmes qu'on a. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé dans ton petit ouvrage, Céline, c'est qu'il commence par deux petits chapitres qui se suivent tout de suite, qui est l'aliénation des besoins et du travail. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu, justement, sur cette dialectique, on va dire, qui rejoint la dialectique, pour aller vite, production-consommation ?
Ce que tu dis est tout à fait juste sur le fait que Gorce essaye d'articuler écologie et socialisme aussi sur le plan du diagnostic. En fait, les deux sont un problème causé par le capitalisme et sur le plan du coup de la stratégie, d'avoir une stratégie commune. Et c'est en effet tout son enjeu d'articuler les deux et d'amener les deux milieux militants, sociaux, etc. à se parler pour comprendre que l'ennemi commun, c'est la cause du problème et c'est le capitalisme et le productiviste. Et donc, le diagnostic que fait Gorce sur l'aliénation des besoins et du travail, c'est le diagnostic dans le contexte du capitalisme keynésien, où on considère que la production est écoulée par la consommation des marchandises de toutes les tranches sociales, y compris les plus populaires. Et donc, il y a une incitation à la consommation par des mécanismes de crédit aussi, le crédit à la consommation. Et par une production de masse. Donc on est dans le contexte de société de masse, des 30 glorieuses comme on l'appelle, qui est dénoncée en disant, voilà, ce n'est pas une résolution de la misère ouvrière, ça c'est le grand débat de l'après-guerre. Est-ce qu'il n'y a plus de misère ouvrière parce que les gens ont un frigo ou est-ce qu'il y a d'autres formes de misère? Et donc c'est ce que analyse Gorce en disant, mais en fait il y a toujours une sorte de misère existentielle parce que les besoins existentiels, notamment de reconnaissance, de maîtrise de son travail, de maîtrise de ses conditions de vie sont toujours aliénés et on donne l'impression qu'ils sont satisfaits par de simples possessions matérielles. Et donc ça, c'est aussi l'angle philosophique de Gorce de dire il ne suffit pas de consommer pour être heureux et pour se satisfaire de cette existence-là. Et il dit même quand il y a des revendications matérialistes type des hausses de salaire ou des choses comme ça, en fait, ça dit quelque chose de plus. Ça dit un refus de sa condition actuelle, que ça dit un refus de ce rapport de pouvoir et que même les revendications qui peuvent paraître les plus anecdotiques et factuelles, en fait, disent merde et qu'il faut les prendre au sérieux en tant que tel. Et donc, c'est pour ça que Gorce dit que l'enjeu, c'est de reprendre du pouvoir sur le travail en considérant qu'il y a une sorte de cercle vertueux, parce que si on reprend du pouvoir sur une des dimensions de la vie, ça va alimenter les combats et les envies d'émancipation dans les autres dimensions de la vie. Gorce considère qu'on peut d'abord entrer sur les enjeux politiques en voulant reprendre du pouvoir sur ses conditions d'existence, son habitat, ses besoins. On peut d'abord commencer par UFC que choisir, 60 millions de consommateurs, et ensuite aller vers le milieu syndical. Là-dessus, il est assez pluraliste et ouvert aussi, en considérant que ces différents engagements témoignent d'une envie d'émancipation et qu'on ne peut pas, disons, a priori, imposer le seul engagement syndical comme engagement principal. Et c'est notamment ce qu'il va développer dans les années 80, en ayant l'impression que l'engagement par le travail n'est plus le seul engagement possible, mais aussi du fait du changement des conditions de travail, des contrats précaires, des contrats courts, de l'intermittence, etc., qui peuvent donner l'impression qu'il y a d'autres terrains sur lesquels s'engager. Et donc, l'enjeu de Gorce, c'est de diagnostiquer l'aliénation dans toutes nos conditions d'existence, aussi bien au travail que dans nos conditions d'habitat, quand on se voit à imposer la 69, une mine dans notre département, etc. Et de revendiquer, de reprendre du pouvoir sur sa vie, aussi bien dans l'activité de production que dans la satisfaction de ses besoins par une coopérative alimentaire, que dans la satisfaction de certaines tâches familiales par une garde d'enfants qui serait autogéré par les parents, etc. Voilà. Et l'enjeu, c'est de reprendre du pouvoir sur sa vie contre toutes les institutions qui nous aliènent. Donc, ce sont les institutions dans le cadre du travail, mais pas uniquement. Et c'est ce qu'il développe notamment avec Ivan Illich en étendant cette critique à l'éducation, par exemple, à l'école, à l'université, à la médecine. Et donc, la force de cette écologie de Gorce, c'est de cibler une pluralité d'institutions qui nous aliènent et d'essayer de penser une écologie assez extensive, en fait, qui cible tout ça quand elle défend un idéal d'émancipation. Et c'est pour ça que c'est pas du tout une conception réductrice de l'écologie qui dit voilà, l'écologie, c'est manger bio. Non, l'écologie, c'est reprendre du pouvoir. Et en fait, déjà, dès qu'on dit ça, on se place dans des rapports de force. Et c'est ce qui rend l'analyse aussi historique intéressante, parce qu'on voit comment l'écologie a été dépolitisée en disant l'écologie, c'est manger bio, et puis vous restez dans votre stade de consommateur, en fait. Et je pense que s'il y a eu besoin aujourd'hui d'articuler mouvements sociaux et mouvements écologistes, c'est parce qu'on a divisé les deux pour mieux régner. En disant, vous, les écolos, vous êtes du côté de la consommation et puis des poils téfal, mais par contre les travailleurs, vous êtes du côté de la défense de vos emplois, alors qu'en fait on peut très bien dire que les enjeux de pollution, ça a des conséquences sur les conditions de travail et donc que c'est aussi un enjeu pour les travailleurs, etc. Je pense que par-delà l'enjeu de cette articulation, il faut aussi penser pourquoi on se retrouve aujourd'hui à penser cette articulation, alors même que dans les années 70, cette articulation a été là. Ça veut dire qu'il y a eu un détricotage aussi dans la façon dont le débat public s'est organisé, dans la façon dont les institutions et les organisations ont aussi peut-être défendu leur précaré, disons. Mais dans les années 70, quand on voit aussi bien la presse écologiste syndicale de l'époque, par exemple, tout le mouvement du PSU et de la CFDT, en fait, articuler complètement les enjeux de santé environnementale, de santé des travailleurs. La lutte de Jussieu contre l'amiante est symbolique de cet enjeu de santé, en fait, du travail. Et c'est progressivement qu'en fait, ça a été détricoté.
C'est quelque chose qu'on voit en fait émerger par ailleurs dans le mouvement ouvrier autour de la question des conditions de ça a été les conditions de travail, c'est-à-dire d'une certaine manière la qualité, on va dire, les revendications qualitatives par rapport aux revendications quantitatives. Une des grèves un peu célèbres pour ça, ça a été la grève de la Rodia Seta en 1967 à Besançon, où justement les ouvrières et ouvriers parlaient de leurs conditions de travail, de comment est-ce que ça leur détruisait la santé. Et que j'invite les auditeurs et auditrices à regarder un très beau film de Chris Marker qui s'appelle « À bientôt, j'espère ». Et on souhaite tous, d'ailleurs, à voir ce bientôt arriver un de ces jours. Mais c'est une manière pour Gorce aussi d'imaginer et de voir, enfin, d'analyser un capitalisme qui déborde du seul cadre de l'entreprise. C'est-à-dire que l'aliénation capitaliste que produit la société capitaliste, elle n'est pas que dans le cadre de l'entreprise. Je vais te faire rebondir un petit peu, Simon, parce que j'avais trouvé une citation. On reviendra sur les liens un peu écologie avec autre chose après, mais j'ai trouvé une citation dans Stratégie ouvrière et néo-capitalisme, pour le coup.
1964.
Exactement, qui dit bien ça. Hein, il parle de ce qu'est le monde de l'entreprise. Et bon, moi, je travaille en lycée professionnel, par exemple. Le monde de l'entreprise, c'est quelque chose de très présent, mais idéologiquement, en réalité, hein, avec des conséquences matérielles très concrètes. Et donc, voilà ce qu'il dit, c'est pas long. Hein. En marge de la société civile, formellement libre, se perpétue ainsi dans les entreprises une société despotique, autoritaire. Et il n'est pas normal que cette société militarisée se pose aux occasions propices, comme la vérité de la société capitaliste elle-même, qu'elle tende à déborder et à envahir tous les domaines de la vie civile. Et je trouve que cette vision... Alors, il y a deux choses, d'ailleurs. Le fait que le monde de l'entreprise
autoritaire, c'est-à-dire que ce n'est pas la démocratie, la liberté, l'entreprise en réalité, à des occasions propices, donc on peut peut-être faire de lien avec de l'actualité d'ailleurs sur les occasions propices, mais justement avec cette ambition de déborder et envahir tous les domaines de la vie civile. Simon, peut-être que ça t'inspire quelque chose, y compris avec ce qu'a dit Céline précédemment.
Ça, on est 60 ans après, on voit que c'est très très juste. Hein, et que depuis, ça a pris une telle ampleur et un tel. Toutes nos vies sont mangées, tous nos espaces de vie sont grignotés, ça c'est assez évident. Mais moi je pense que sur ce que tu dis et sur ce que pouvait porter Gorce, on s'y retrouve totalement. Bon, j'ai l'avantage de venir de l'Union syndicale solidaire, et y compris dans l'Alliance écologique et sociale, nous en tant que force syndicale, assez héritière des réflexions portées dans la CFDT dans les années 60 et 70, on s'y retrouve totalement. Enfin, c'est-à-dire, ça nous a semblé très facile, et plus facile peut-être qu'à d'autres structures syndicales, mais c'est justement ça l'intérêt d'une alliance, c'est de se rencontrer et d'avancer. Parce qu'on n'est pas des forces suffisantes. C'est ça aussi le constat qu'on a pu faire, c'est qu'individuellement, peut-être qu'on pèse tous un petit peu, mais on n'arrive pas encore à peser largement pour faire évoluer, faire changer un petit peu les choses. Ça me fait penser au mot « empowerment » qui est surutilisé maintenant, mais reprendre du pouvoir. Alors, tout le pouvoir aux travailleurs, aux travailleuses, cette question-là, elle est centrale. Elle aborde quelque part la question de ce qu'on peut mettre derrière l'autogestion, comment on fait vivre le concept d'autogestion. Mais de fait, pour revenir à ce que tu dis Théo, se fracasse sur la question du capital. Je reprends l'exemple de Chapelle d'Arblay tout à l'heure. À la même période, on a aidé à construire ce qui s'appelait la coopérative des masques, la COP des masques en Bretagne. Hein, on sort en pleine pandémie, on ne produit plus de masques en France, on se mobilise au niveau du mouvement social pour relancer une coopérative. Bon, qui n'a pas réussi à survivre, hélas, mais pour plein de raisons économiques ensuite, mais qui a quand même produit pendant un certain temps. Et ça, on a réussi parce que, en fait, l'apport en capital était assez faible. Pour Chapelle d'Arblay, on parle quand même de grosses structures là, qui se mobilisent, avec la CGT en tête. On parle d'une capacité médiatique, on parle de plein de choses. Mais qu'est-ce qui nous manque ? Il y a des travailleurs et des travailleuses qui savent faire fonctionner les machines, mais il n'y a pas le capital. C'est ça aussi le cœur du problème. Et là, on voit bien qu'on rencontre ce qui pouvait être dit à l'époque. Alors là, on revient au capital classique sur le contrôle des moyens de production, hein, avant qu'ils s'étendent au plus loin. Mais non, le mouvement social, aujourd'hui, il n'est pas capable de créer une coopérative avec 150 millions d'euros de fonds de réserve, en fait. Et sinon, Chapelle d'Arblay, on l'a relancé en 2 mois. Là, ça se pose vraiment sur le sujet la question de comment on avance. Et c'est peut-être un défaut qu'on a, une difficulté qu'on a assez régulière, c'est que cette question qu'on pose en ce moment en termes de reconversion, on dit comment reconvertir les outils industriels. Mais en fait, on est un peu piégé dans ce système-là parce qu'on est dépendant soit des capitalistes qui possèdent leur outil et qui se disent comment faire évoluer l'outil de production pour qu'il continue à être pérenne et rapporter beaucoup, soit on dépend un peu du bon vouloir de quelques financeurs publics qui, en fonction du moment et de leur pouvoir, des étiquettes, seront prêts à aider, à appuyer. Alors évidemment, localement, quelle que soit leur étiquette, sont toujours prêts à appuyer pour éviter qu'il y ait trop de monde au chômage. Mais nationalement, c'est rarement le cas. Et du coup, on se retrouve assez vite dans une impasse, malgré des réflexions qui peuvent exister au niveau syndical. On en revient du coup à cette fameuse question quoi, le pouvoir des travailleuses et travailleurs qui se heurtent au pouvoir de contrôle, de propriété des outils de production, le capitalisme.
Ouais. Et la question de la taille, mais ça c'est le problème du gigantisme, c'est un problème beaucoup discuté par Gorce dans les années 70 aussi, en dialogue avec les opéraïstes italiens, donc c'est un courant marxiste hétérodoxe des années 60-70 qui montre à quel point le capital répond aux luttes sociales parce que a pour but de diviser pour mieux régner aussi et d'automatiser quand ça l'arrange d'économiser du travail vivant, mais du coup aussi ces opéraïstes italiens Berlin, ils mettent en œuvre toute une technocritique de l'organisation même du travail, de l'organisation même des machines, en montrant à quel point ça a des conséquences sur les conditions de travail et aussi sur le pouvoir qu'on peut reprendre sur le travail. Et le gigantisme des entreprises et des usines, c'est quelque chose qui marque Gorce en disant mais le but de ces entreprises gigantesques, ce n'est pas d'être plus efficace sur le plan économique, parce qu'en fait, des petites unités, des petites entreprises sont plus agiles, mais en fait, c'est de concentrer du pouvoir. Et donc, c'est une analyse du capitalisme, non pas comme efficace économiquement, mais comme concentration de pouvoir. Et donc, Gorce a des propos en disant « on n'autogère pas une usine de 20 000 personnes ». Il y a un effet de taille. Et la taille, les conditions matérielles comptent pour reprendre du pouvoir sur une structure ou non. Il n'y a pas d'autogestion possible dans une usine de 20 000 ouvriers, écrit Gorce. Il n'y a pas d'autogestion possible d'une centrale nucléaire. Parce qu'une centrale nucléaire dépend forcément de l'État central qui est capable d'aligner des chèques en blanc, aussi bien pour investir dans les infrastructures que pour réprimer les militants anti-nucléaires, etc. Et donc, il n'y a pas d'autogestion d'infrastructures qui dépendent autant d'une concentration du pouvoir, qu'il soit économique ou politique. Donc ça pose des questions stratégiques énormes. Comment on fait avec les outils en place qui sont dimensionnés à cette taille-là, parce que ça a été dans toute la logique du capitalisme d'accumuler du pouvoir et donc de centraliser des infrastructures. Comment on se les réapproprie à une échelle décentralisée, à une échelle low-tech, on pourrait dire. Parce que là, l'exemple de la COP-Masque, bah, c'est une démarche un peu low-tech. C'est on bricole, on fait avec les outils qu'on a sous la main. Aussi parce que ça nous permet d'être plus agiles, etc. Mais ça a d'autres problèmes en termes d'ampleur de ce qu'on fait. De même que les coopératives alimentaires, les coopératives de production, elles sont plus agiles, mais en même temps, elles ne touchent pas du tout autant de personnes. Et ça, c'est toute une question non tranchée par les débats écologistes sur la place de l'industrie dans la transition écologique. Et là-dessus, dans le cadre de la revue Bifurcation, on est en train de préparer un numéro sur la question de l'industrie, un dossier, parce que c'est vraiment un problème qu'on a. C'est-à-dire que les low-tech ne sont pas à l'échelle pour remplacer là, du jour au lendemain, toutes nos infrastructures. Et en même temps, comment on fait cette conversion de l'industrie? Qu'est-ce qu'on choisit comme étant prioritaire ou non? Dans quel contexte on fait cette reconversion? Bon, là, je vous livre des problèmes. Mais en tout cas, cette question de la taille, elle conditionne les outils qu'on utilise, elle conditionne ce qu'on va produire, elle conditionne ce qu'on considère, enfin, l'échelle qu'on considère comme étant pertinente pour cette production. Parce que dans lequel l'industrie, sur certaines étapes de transformation de la matière, on se dit que c'est pertinent d'avoir certaines industries spécialisées. Et pourtant, dès qu'on parle d'agro-industrie, là, on n'en veut plus. Donc, ça montre bien que pour le domaine de l'alimentaire, on préfère faire, disons, des petites unités de production plus agiles, plus autogérables aussi, avec un système de circuit court. Mais par contre, que l'industrie, on se dit quand même qu'il faut un certain niveau d'échelle. Donc, voilà, je pense que c'est matière à réflexion et que c'est un énorme sujet pour les enjeux écologistes et que ce n'est pas seulement un sujet technique, parce que moi, ce qui m'effraie beaucoup, ce sont que ces questions sont accaparées par des ingénieurs qui ont une vision très technocrate de tout ça et très dans une démarche de centralisation et de conservation du pouvoir aussi. Donc, il y a un enjeu démocratique d'appropriation des questions technocritiques, de réflexion sur l'industrie, de comment ça marche, de quels sont les besoins prioritaires, etc. Et si on attend que finalement, que des ingénieurs nous disent quoi faire, on va continuer de déposséder les gens de toute cette production et consommation aussi. Bon, voilà.
Juste pour rebondir sur ce sujet-là, je pense qu'il est très très important et en plus, il percute une partie des débats et des réflexions qu'on a eu il y a quelques années avec une partie du mouvement écologiste, justement qui disait voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut avancer dans tel sens, en oubliant dans le logiciel, mais on a discuté, bah qu'on ne peut pas faire sans les travailleuses et les travailleurs. Il ne suffit pas d'arriver devant un endroit, une usine, en disant « Bon, bah écoutez, en fait, vous faites de la merde, vous polluez et tout, au revoir. » Qu'est-ce qui va se passer? Bah forcément, un point de vue extérieur qui bloque et qui, du coup, crée une division et qui nous renvoie. Les méchants productivistes d'un côté, qui essayent de payer leur loyer, et les gentils qui veulent sauver la planète et l'environnement de l'autre. Et cette nécessité du commun, cette nécessité de la discussion ensemble et d'avancer ensemble, elle nous paraît évidente là, quand on échange, mais elle est possible. Elle est possible, elle est envisageable, mais on a besoin de produire un certain nombre de choses. On pose la question de l'utilité sociale de la production. Là, ça, c'est intéressant. Et évidemment que les gens qui travaillent, quand on commence à se poser comme pouvant faire quelque chose de plus intéressant, quelque chose de plus utile socialement, et surtout quelque chose qui ne va pas dévaloriser notre travail, là, ça compte et ça s'apporte. C'est vraiment aussi cette réflexion qu'on a apportée et sur laquelle on avance ces dernières années, mais qui rejoint pour nous assez facilement les concepts d'autogestion, les concepts de discussion, d'usagers et d'usagères, de première nécessité, etc. Je me donne juste un petit exemple. Ça n'a pas marché les As, mais il y a quelques années, fermeture d'un truc d'un LOP, là, dans le Nord. Il s'avère que notre syndicat était majoritaire. Notre syndicat, c'était Sud Chimie, là-dedans, qui est syndicat majoritaire, qui essaye de proposer une reconversion de l'entreprise. Au lieu de fabriquer des pneus, alors là, ils ferment pour délocaliser en Europe de l'Est, en gros, et la proposition dans le Nord des pouvoirs publics et du gouvernement, c'est de fabriquer des pneus plus gros, de SUV, quoi, parce que c'est ça qui va marcher, quoi. Et les camarades disent, non, mais ce qui serait plutôt intéressant, c'est d'utiliser nos machines pour faire des bâches qui servent à la rénovation thermique des bâtiments. Et parce qu'on est capable de faire ça, on est capable d'utiliser ces machines et notre savoir-faire pour ça. Hélas, le débat, il arrive trop tard, la faisabilité arrive trop tard, et on revient aussi à la question du capital qu'on posait tout à l'heure. Ça n'a pas marché, la majorité des travailleuses et travailleurs ont préféré perdre leur emploi et encaisser un chèque, ce qui est un problème de fond sur le rapport au travail, mais qui est une réalité qu'il faut prendre en compte. Mais ça posait aussi la question du manque d'anticipation. Et bien, à son congrès national suivant, le syndicat Sud Chimie, qui est implanté dans plein d'endroits et beaucoup dans les questions de fabrication de médicaments et dans l'industrie du médicament, mais pas seulement, a dit, ben voilà, il faut qu'on anticipe. Comment on arrive à réfléchir en amont l'utilité sociale de notre production et pouvoir dire oui, on a besoin de ça et ça, non, c'est complètement de la merde et on ne veut plus fabriquer ça. Et nous, en tant que travailleurs et travailleurs, on veut s'en débarrasser. Et ça, ça génère derrière une possibilité d'alliance, mais aussi de mieux. Enfin, de mieux-être. Tout le monde, quand on commence à proposer de faire mieux les choses et que ça serve, bah, on peut se regarder dans une glace en disant c'est un peu mieux que de fabriquer des produits de merde qui polluent énormément. Pour autant, hein, toujours ce truc, on ne peut pas se poser en extériorité.
Mais ça, finalement, ça marche pour les travailleurs qui exploitaient et qui ont conscience de leur exploitation par le capital. Mais la question que je vous pose là, c'est qu'est-ce qu'on fait des travailleurs de droite, quoi ? Et qu'est-ce qu'on fait des travailleurs de la pub ? Qu'est-ce qu'on fait des travailleurs qui sont dans les banques, dans la spéculation sur les marchés financiers, qui spéculent sur le cours du blé, qui sont du côté du capital, quoi, en gros ? Et puis aussi en termes de volume. Aujourd'hui, les services, la pub, les démarcheurs téléphoniques, ça emploie un paquet de monde. Et je veux bien qu'on ait besoin de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits, etc. Pour les enjeux écologiques, mais peut-être pas d'autant. On n'a peut-être pas besoin d'autant de consultants qu'il y en a aujourd'hui. Et donc, comment on reconvertit ces secteurs-là ? Est-ce que c'est vraiment envisageable, souhaitable ? Ce qu'on voit dans les reconversions individuelles des professionnels de ces secteurs qui ont envie de se reconvertir, c'est qu'en fait, ils n'essayent pas de changer leur boîte de conseil de requin de l'intérieur, mais ils se cassent à faire autre chose. Et donc, ça veut bien dire que l'idéal de transformer sa production, de lui trouver un autre sens et de le faire par la lutte syndicale en interne, c'est pas du tout la voie pour certains travailleurs et travailleuses et dans certains secteurs non plus. Donc ça, je pense que c'est une question difficile aussi de cette reconversion d'un paquet de fonctions qui sont au service du capital et avec des travailleurs qui sont acquis à ça aussi.
Bien sûr, mais ça dépend forcément aussi du secteur. On peut se dire, il y a des espaces qui sont inutiles socialement, voire qui sont nocifs socialement. Bon, tu parles des traders ou du milieu de la publicité. On ne doit pas se poser... Là on n'est pas sur les questions des outils de production. On est plus sur la question des compétences et de l'utilisation de compétences acquises. Bon, j'ai une petite connerie comme ça, mais quelqu'un capable de faire des publicités pour vendre des SUV qui ne servent à rien peut peut-être servir au contraire à aider à, par exemple, faire des campagnes de prévention sur le sida pour les jeunes qui n'utilisent plus de préservatifs aujourd'hui. Et là, d'une compétence de réflexion, elle peut être au service de la société et non pas de sa détérioration.
Ce qui est posé, hein, à mon avis aussi, un petit peu dans cette question-là, c'est en fait la question d'avoir, tu parlais d'imaginaire pour le coup, mais en tout cas d'avoir une projection politique au sens noble du terme, encore une fois, hein, pas de tel parti ou de... Mais voilà, ce qui était un vrai débat dans le mouvement syndical, pour le coup, à l'époque où Gorz écrit beaucoup pour les syndicalistes dans les années 70-80, c'était effectivement la CFDT du socialisme autogestionnaire, la CGT du programme commun de salles de ambiance. Mais c'était aussi... Lui posait aussi, par exemple, des questions... Je pense à un texte qu'on cite souvent de lui, qui est celui sur l'idéologie sociale de la bagnole, par exemple, qui était paru dans un journal qui s'appelait Le Sauvage, dont le titre dans le journal du Sauvage n'était pas celui-là, mais était, je l'ai retrouvé, « Mettez du socialisme dans votre moteur ». Donc, il était mieux, moi, je trouve. Mais qui pose ces questions-là. C'est-à-dire que lui, à l'époque, il interroge la question de la voiture, en la traitant socialement, en disant qu'est-ce que ça veut dire en termes de rapport au temps, en termes d'inégalité sociale, en termes de construction, y compris impact urbain, etc. Enfin bon, voilà, il réfléchissait tout ça. Des fois, c'est peut-être ce qui manque un petit peu, je le dis de manière un peu critique, dans l'ensemble du mouvement syndical, d'arriver aujourd'hui à reprendre pied sur une projection, en fait, qui, d'une certaine manière, arrime des luttes concrètes à une vision, quelque chose qui sait que ça va nous emmener à un endroit précis. En l'occurrence, c'était le socialisme à l'époque. Je ne sais pas si c'est le bon mot ou si c'est l'éco-socialisme aujourd'hui. Ou bon, voilà, mais il y a ça. Et en même temps, Gorz, il pouvait faire ce travail-là, qui était un travail à la fois théorique, qui posait des questions politiques, civilisationnelles même, on pourrait dire. Et en même temps, tu, dans ton petit livre, là, tu allais chercher une petite Alimek, une petite archive où Gorz répond à Ivan Illich, en lui disant justement que, je le lis comme c'est écrit, hein, comme il l'écrit, la faction axiomatique des buts à définir, donc une utopie, met-il entre parenthèses, mais qu'on ne peut pas le faire sans se soucier de la question de la lutte pratique. Alors l'idée, ce serait un petit peu de partir sur justement, comment est-ce que lui voilait la question pratico-pratique d'essayer de faire cette bascule vers une autre société. Ça pose la question de l'autogestion, ça pose, qui sont des questions un peu gorzienne, on va dire, mais pas que. Il y a une petite citation de lui, c'est une phrase que j'ai trouvée intéressante là-dessus, qui peut nous faire un peu réfléchir, qui est « L'alternative est entre des pouvoirs subalternes et des pouvoirs autonomes ». Alors, là, pour le coup, Céline, est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur cette histoire pouvoir subalterne, pouvoir autonome ? Parce que, effectivement, comment est-ce qu'on reprend du pouvoir ? La question a été posée, et c'est bien un des enjeux qu'on a, moyen, voire court terme, là, quand même. Voilà.
Ouais, il y a deux façons de répondre à ta question. Il y a la question des moyens pour mener la lutte, des moyens et des moyens matériels, et il y a la question de qui mène la lutte, les sujets révolutionnaires, les forces sociales, comme les appelle Gorz. Donc pour la question des moyens et de comment on retrouve du pouvoir sur la vie, c'est une distinction conceptuelle que fait Gorz en 1964 dans Stratégie ouvrière et néo-capitalisme, entre pouvoir autonome et pouvoir subalterne, entre réforme révolutionnaire et réforme réformiste, à l'époque, le grand débat, réforme ou révolution, enfin à l'époque, j'ai l'impression que à l'époque depuis le 19e siècle, et donc il y a cette alternative entre réforme ou révolution. D'ailleurs, il y a un ouvrage de Gorz, mais qui a un ensemble d'articles, qui s'appelle Réforme ou révolution. Gorz propose ce concept de réforme révolutionnaire. Alors, ça a de réforme que c'est accessible ici, maintenant, dans la situation présente. C'est possible de le faire advenir aujourd'hui, maintenant, et non pas après le grand soir. Donc ça, c'est ce qui est important dans le concept de réforme, parce que ça n'implique pas la victoire politique et ça n'implique pas de remettre cela à un long terme ou un terme inexistant. Mais c'est révolutionnaire parce que ça change les rapports de force. Et c'est révolutionnaire parce que ça va bousculer les rapports de force et faire gagner du pouvoir au mouvement révolutionnaire, au mouvement ouvrier. Et donc, la réforme révolutionnaire, telle qu'il l'appelle en 64, c'est l'autogestion, parce que l'autogestion du travail, elle est accessible ici, maintenant. Si on décide localement, dans certaines unités de production, de reprendre du pouvoir sur ce qu'on fait, de faire cette lutte avec la direction, et dans certaines situations de reprise d'usines, de grèves autogérées, etc. Et elle transforme immédiatement les rapports de force, contre la direction. Elle transforme les sujets révolutionnaires aussi, parce que les gens prennent conscience de leur pouvoir, prennent conscience que c'est accessible, etc. Ça crée une dynamique collective, et donc il y a un avant-après. Et donc ça, c'est ça, son enjeu de réforme révolutionnaire, comment on retrouve du pouvoir sur la vie ici et maintenant, et comment on change les rapports de force. Et ça, on peut dire que ça marche dans le cas du travail. Si vous faites même une simple grève, ça crée une dynamique collective après. Ça marche si vous faites LIP en grève autogérée, vous apprenez à vous organiser différemment et à continuer la production. Mais ça marche aussi si vous intégrez un peu par hasard une coopérative alimentaire près de chez vous et vous apprenez en fait à détester la malbouffe et l'agro-industrie. D'une certaine façon, chaque étape de reprise un peu du pouvoir est un moment de conscientisation de ces enjeux-là, un moment de se rendre compte aussi des rapports de pouvoir qui existent sur ces enjeux de consommation, sur ces enjeux d'habitat, si vous êtes en lutte avec un industriel qui veut étendre, je sais pas, ou un centre commercial près de chez vous, le camp militaire du Larzac, vous vous rendez compte de qui a du pouvoir, vous conscientisez ces rapports de force et vous choisissez d'entrer dans cette lutte-là. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a d'autres aussi dimensions que l'existence au travail qui peuvent permettre cette prise de conscience des rapports de pouvoir et qui peuvent permettre aussi de passer à l'action et avoir des conséquences sur d'autres dimensions de l'existence. Et que c'est ça que Gorce aussi appelle l'écologie quand il s'intéresse à la diversité de ces luttes des années 70 et où il relie aussi bien le Larzac que le cas de l'IP, donc cette grève autogérée à Besançon, que le cas des mouvements régionaux en Bretagne et en Occitanie qui défendent en fait juste leur langue locale et la culture locale et qui critiquent l'État central, que la critique du génie rural en Bretagne en mode on veut pas démembrer les terres agricoles et on veut que vous nous laissiez les haies et les vergers, etc. Et donc pour lui, tout ça, ce sont des luttes qui visent à reprendre du pouvoir sur la vie et qui explicite des rapports de force. Et ces rapports de force, ils ne viennent pas toujours d'une entreprise privée, ça peut venir de l'État. Et ça, c'est la grande force de l'écologie de cette époque, d'être très critique de l'État et de la technocratie. Et ça, c'est un truc qu'on a complètement oublié dans le débat public aujourd'hui, où finalement, maintenant, l'écologie, ça devient un truc de l'État, ça devient un truc de gouvernement dans toutes les sauces. Hein. Bon, on pourrait... Quelle est la nature de cette écologie ? Mais en tout cas, où c'est devenu... on n'a pas nécessairement une écologie libertaire et critique du pouvoir de l'État et des institutions publiques. Et ça, c'était très présent dans les années 70. Il y avait vraiment cette méfiance vis-à-vis des institutions centrales et du pouvoir de l'État aussi. Donc voilà pour les moyens, disons. Retrouver du moyen dans toutes les dimensions de l'existence, là où ça nous semble le plus accessible. Peut-être que si vous êtes au chômage depuis longtemps, vous n'allez pas forcément vous sentir légitime dans un milieu syndical, même si maintenant il y a des syndicats de chômeurs et de précaires. Et l'autre enjeu, c'est quelles sont les forces sociales en présence pour porter ce sujet-là. Et c'est ça qui intéresse Gorce quand il analyse ça dans les années 70 et dans les années 80, en se demandant mais qui a envie de changer les choses aujourd'hui ? Dans les années 70, il voit les luttes ouvrières, il voit les luttes écologistes et il invite les deux à se parler en montrant aux luttes ouvrières qu'elles sont aussi écologistes, qu'elles veulent aussi reprendre du pouvoir sur la vie, améliorer la qualité de vie, etc. Et en montrant aux écolos qui sont anticapitalistes, même si, en fait, c'est des enjeux générationnels, hein, c'est aussi post-68, on ne veut pas être comme nos parents, l'image de la CGT, etc. L'autorité, la dureté aussi du mouvement ouvrier qui pouvait avoir un certain sérieux. Et donc, il y a un enjeu d'articuler les générations et d'articuler des mouvements sociaux aussi. Et ensuite, dans les années 80, en se disant, bon, voilà, on est dans un contexte de chômage plus massif qu'il y a 20 ans. Qui sont les forces sociales qui ont envie de changer les choses aujourd'hui ? Le mouvement écologiste émerge, le mouvement féministe émerge aussi et ne veut pas qu'on lui dise, t'attendras le grand soir pour que ça se passe mieux, quoi. Et donc, il y a un enjeu d'articuler une diversité d'acteurs aussi. Et Gorce veut l'articuler sous ce concept de néo-prolétariat post-industriel. Bon, quand on dit que Gorce, il dit adieu au prolétariat, mais c'est au prolétariat de Marx, et il propose ce néo-prolétariat post-industriel, mais en disant, mais vous êtes tous anti-productivistes, en fait. Aussi bien les écolos que les féministes que les ouvriers, mettez-vous d'accord sur la lutte contre le capital. Et en fait, chacun aussi a droit de lutter sur son terrain. Le problème, ça peut être de prioriser en disant le plus important, c'est le travail. Alors que certains montrent l'importance pour eux, pour elles, de d'autres contextes aussi d'oppression. Et donc, l'enjeu, c'est d'avoir une certaine approche pluraliste aussi sur le plan moral et politique, de dire que les situations d'oppression et d'aliénation dans leur diversité sont légitimes et que les terrains de lutte le sont aussi. Et que vous pouvez ne pas vous reconnaître dans une lutte syndicale ou dans une lutte avec vos collègues parce que vous n'avez pas choisi vos collègues et vous n'avez pas choisi votre boulot de croix non plus. Et ça, c'est une force. Ça vient d'un ancrage un peu existentiel de Gorce, et c'est le tout premier texte de l'anthologie sur un peu l'arbitraire de pourquoi on est là, pourquoi on a pris ce boulot-là, quoi. C'est un peu parfois des hasards de la vie. Et se rappeler qu'on n'est pas contraint d'être enfermé dans cette identité-là toute une vie. Et c'est pour ça que d'autres terrains de lutte sont tout aussi légitimes.
Simon, pour du coup rebondir sur ces questions, à la fois les moyens, les acteurs, donc les moyens et notamment la question de d'où situer le rapport de force et la question du pouvoir et les acteurs.
Je commence par les acteurs pour être vraiment dans la suite. La réflexion pour nous, elle existe, elle est profonde, c'est l'articulation syndicalisme-mouvement social en fait. On considère bien, alors là je déborde aussi, c'est pas l'Alliance écologique et sociale, c'est plus le syndicalisme, le courant syndical de porte solidaire aujourd'hui, mais qui articule justement avec les mouvements sociaux et qui sait très bien que justement depuis les années 60 et 70, l'émergence de mouvements sociaux et puis une réémergence à la fin des années 90 d'autres types de mouvements sociaux, et on peut même aujourd'hui parler encore de nouvelles émergences autour des questions d'écologie, autour des questions d'antiracisme notamment, il faut articuler. Voilà, ça veut dire qu'on doit s'auto-alimenter, ça veut dire qu'on doit être capable de travailler ensemble, de réfléchir à ce qui est la meilleure forme d'organisation pour porter des luttes. Parfois, c'est la lutte syndicale qui est la meilleure forme et elle doit être irriguée par les débats de ce qui se passe à l'extérieur et elle doit pouvoir s'allier avec les associations, les collectifs ou ce qui se passe dans notre société. Bon, pour autant, nous, on reste persuadés qu'il y a une forme de centralité du travail dans nos vies, quoi. Mais quand on dit travail, on ne parle pas juste à entrer et sortir de notre lieu de travail. On pense qu'en tant que producteur et productrice dans la société, on a des choses à réfléchir, à mener, des combats qui sont même extérieurs directement à notre travail. Typiquement, quelle travailleuse et travailleur en France n'est pas touché par la question du logement, quoi. Voilà. Combien ça coûte de pouvoir se loger? Du coup, je dois travailler combien en plus ou en moins par rapport à là où je vis pour pouvoir me loger dignement? Forcément, le combat sur un logement digne, il fait partie pour nous du combat syndical, même si, on ne va pas se mentir, il y a des organisations, des associations, des collectifs qui luttent beaucoup plus directement sur ces questions-là. Mais on doit garder toujours un lien et pas fractionner en tout cas les choses. Après, peut-être qu'une des difficultés, c'est quand même l'évolution forte entre ce que disait Gorce et là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire, on subit quand même un capitalisme qui a explosé encore plus que ce qu'il était dans nos vies, dans la société, par rapport à il y a 50 ou il y a 60 ans, quoi. Alors, il le voyait déjà. En partie, bon, moi j'ai pas lu Gorce, hein. Je t'écoute, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, donc je commence à prendre en compte les choses.
Tu vas pouvoir le découvrir, du coup.
Oui, ça donne totalement envie de lire plus et d'avoir une approche théorique plus intéressante, mais il y a des choses qui sont compliquées dans les évolutions et peut-être aussi dans cette question de perspective que tu pointais tout à l'heure, Théo, là, de ce futur désirable qu'on est capable de porter, évidemment. Quand on est juste après 68, quand on est dans les années 70 avec une génération quand même jeune, dynamique, qui croit que la révolution, elle est pour dans quelques mois, dans quelques années, tout au pire, qu'il suffit de s'organiser, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui après des décennies de grosses défaites sociales, et pas, je parle pas de la France, quoi.
De répression violente.
Voilà, de répression
aussi.
Violente, d'énormément de choses qui nous obligent à réfléchir cet horizon futur désirable qu'on souhaite et qui pourtant est rendu chaque jour un peu plus difficile par l'accumulation de mauvaises nouvelles ou de ponts ou de routes qui s'effondrent devant nous, quoi. Mais moi, je reste persuadé qu'il y a aussi autre chose sur l'accélération écologique. Alors, tu parlais du rapport à l'État. Effectivement, moi, je pense que ce n'est pas le même, le rapport à l'État, y compris dans la question écologique aujourd'hui, parce qu'on a besoin de telles transformations que, quelque part, une partie des débats, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin du contrôle de l'appareil d'État et à quel degré cet outil énorme qui existe et ces moyens colossaux qui existent, publics, ne sont pas nécessaires pour faire face. Et on le voit bien, là, on ne nous propose pas un plan de 800 milliards en Europe pour faire face à la crise écologique, on nous propose un plan de 800 milliards pour construire des armes. Ce n'est pas vraiment la même chose et pas vraiment le même objectif. Voilà. Alors, je ne vais pas entraîner sur un débat sur l'impérialisme aujourd'hui, mais certainement qu'il y a des choses à faire. On voit aussi que Charles Bonnier, quand il travaille sur la question rapport écologie, décarbonation et guerre, il y a des choses intéressantes à apporter. Je pense qu'aujourd'hui, cette question écologique, elle est attractive pour aller dans la transformation sociale. Et nous, on porte un syndicalisme de transformation sociale et les structures qui participent à l'Alliance écologique et sociale portent aussi un syndicalisme de transformation sociale. Ça veut bien dire qu'on doit réfléchir sur du moyen terme et du long terme vers quelle société on veut aller. On ne peut pas aujourd'hui réfléchir sur cette question écologique, en tout cas, sans se dire, bon, c'est quoi le monde de demain ? D'ailleurs, c'est bien une grande partie du débat qu'on a, des projections à 2050, à 2100. Je veux dire, quand Météo France nous sort la semaine dernière des projections France plus 4 degrés 2100, bon, bah, c'est autre chose qu'un texte de syndicaliste ou d'écologiste comme ça, qu'on ne prendrait pas au sérieux, quoi, ça impacte. Moi, je pense que ça permet, si on est capable d'être en phase, avec des outils, que ce soit des outils syndicaux, que ce soit des associations, que ce soit des collectifs, ou que ce soit des alliances, comme l'Alliance écologique et sociale, et bah, d'amener du monde à se dire « Ok, maintenant, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on lutte, il faut qu'on avance ensemble. » C'est ça, là, où on en est aujourd'hui. Et bon, ces analyses de Gors, elles sont, pour tout ce que tu en dis, en tout cas, elles me semblent quand même très, très valables, quoi. Très, très opératoires, opérationnelles, pour les temps qui viennent.
Une des questions que posait, pour continuer un tout petit peu ce fil-là et tirer un petit peu, y compris pour poser des questions, Céline, sur des choses... Moi, j'ai lu un peu Gors, mais je n'ai pas tout lu. Pour le coup, toi, tu l'as fait, donc c'est bien, tu vas pouvoir nous donner des précisions. Mais il parlait d'une des perspectives ultimes, je cite, hein, c'est la conquête du pouvoir d'autogestion. Hein, qui est, donc le terme d'autogestion, il arrive, il existe, il est présent quand même dans la pensée de Gors, il est là. Tu parles d'une écologie libertaire, hein, il y a aussi cette conception. Mais c'est une conception aussi de... Simon a évoqué la question des urgences. Il parlait un peu de la course de vitesse dans laquelle on est. Hein, aujourd'hui, on parle de polycrise, hein, et voilà. Mais lui, il disait attention, parce qu'on est dans un moment qui peut aussi bien nous emmener à un anticapitalisme radical qu'à un péténisme. Alors lui, il utilisait l'expression péténisme vert, mais il utilise aussi le terme d'écofascisme. Hein. J'en profite pour parler d'un petit livre d'Antoine Dubiot sur écofascisme qui fait le point. Bon, par ailleurs, aujourd'hui, c'est plutôt les tendances carbofascistes ou fascisme fossile qu'on le vend en poupe. Mais d'une certaine manière, on voit que le fascisme contemporain, si on le prend à l'échelle mondiale, il est relativement plastique. C'est-à-dire que rien, avec des accélérations, y compris de bouleversements climatiques, rien n'empêche qu'on peut avoir cette forme de péténisme vert, c'est-à-dire qu'ils disent « pour votre bien-être, on va prendre des solutions, y compris autoritaires, qui pourraient se parer d'écologie, mais, non, mais en garantissant le niveau de vie de certaines personnes. » C'est là où Gors, lui, par contre, il développait un projet qui, quand même, reposait sur... Enfin, qui était un projet démocratique, en réalité. C'est-à-dire que la question de la transition, la question, c'était la question de la, justement, du pouvoir d'autogestion, qui était, avec un rapport au contrôle ouvrier pour ce qui était des années 70, dans les années 80, c'était peut-être un petit peu différent. Mais là, moi, par contre, c'est... Comment... Est-ce que, toi, tu peux nous éclairer sur comment est-ce qu'il l'envisageait par rapport à des questions d'institution, par exemple? Est-ce qu'il pensait l'institution, est-ce qu'il pensait dans l'écologie sociale de la bagnole, là il termine un peu sur une forme de vision de communes, un petit peu des petites communes qui seraient fédérées d'une certaine manière, quelque chose comme ça. Est-ce que ça c'est quelque chose qui suffirait par exemple à planifier de la production d'un point de vue écologique, ce que posait clairement Simon? Est-ce qu'il n'y a pas des questions d'institutions qui auraient une surface, alors nationale c'est un terme presque étroit, mais en tout cas transfrontalière on va dire, ou en tout cas transcommunale, et qui permettrait... Bon, l'épidémie de Covid nous a montré ça. À un moment donné, on a peut-être besoin de politiques publiques qui arrivent, qui donnent des axes sur lesquels déroger est compliqué, parce qu'on rentre sur des enjeux de santé publique, etc. Mais de la même manière que comment est-ce qu'on articule démocratie et, c'est peut-être pas le bon mot, mais centralisation, est-ce que ça, c'est quelque chose que Gors pensait?
Oui, alors, sur le carbofascisme, s'il y a carbofascisme aujourd'hui, c'est-à-dire alliance entre les industries polluantes, les industriels polluants, y compris ceux qui veulent aller sur Mars, et les États, c'est parce qu'il y a convergence d'intérêts. Et donc, ça répond à la question sur la place de l'État, parce que Gors ne pense pas que l'État peut être... il voit quand même l'État comme l'agent du capital. On est dans le contexte aussi des années 70 et 80.
Il est marxiste,
voilà. où la planification aussi, c'est la planification de De Gaulle, c'est la planification des autoroutes, et c'est la planification de l'agro-industrie, c'est la planification au service du capital. Et il y a plein de textes de Gorce là-dessus sur pourquoi on construit des autoroutes et des réseaux de télécommunications qui seront ensuite privatisés pour engendrer du profit privé plutôt que de construire des bons hôpitaux. Et on lit ça dans les années 60. Hein. Bon, voilà. Et donc, l'enjeu, c'est aussi de déconstruire le pouvoir central, de le vider de sa substance et de le vider de son pouvoir. Et ça, c'est aussi une idée très forte dans l'après 68, une méfiance vis-à-vis des institutions centrales et de leur centralisation du pouvoir. Et l'idée, et ça, il l'applique aussi au parti, à son analyse du parti politique après 68, en disant il nous faut un truc, presque des structures fantômes qui sont capables de laisser place à l'autogestion, de laisser place à une créativité des collectifs, etc. D'où le problème aussi de la question de l'échelle, d'où le problème aujourd'hui de la transition écologique et des enjeux de planification. C'est pas son problème dans ce contexte-là. Aussi parce qu'on ne parle pas tant de réchauffement climatique dans ce contexte, plutôt de pénurie de ressources. Et pour autant, Gorce pense aussi à l'échelle européenne, par exemple, du mouvement ouvrier qui se structure dans les années 60 en disant qu'il n'y aura pas de retour aux frontières et que le protectionnisme est un retour en arrière. Et dans le marxisme, eh ben, il n'y a pas de retour en arrière possible. On continue le développement des forces productives et qu'il faut que le mouvement ouvrier s'organise à l'échelle européenne pour peser à ce niveau-là, alors même qu'en fait, il a conscience que plus vous créez des grosses institutions, eh ben, moins vous donnez de pouvoir aux gens. Mais ça, finalement, ce n'est pas une contradiction à laquelle il répond et qu'il explicite dans ce contexte-là, alors que voilà, la concentration du pouvoir crée du pouvoir abstrait, tel qu'il l'appelle dans les années 80. Et donc, pour lui, la solution qu'il trouve à partir des années 80, c'est de dire qu'il y a une partie de ce pouvoir hétéronome qui est liée à l'organisation de la société et au maintien de la société, y compris dans un idéal socialiste décroissant, voilà, post-révolutionnaire, mais qu'il faut le réduire au minimum, au strict fonctionnel, voilà, aux enjeux de santé, etc., aux enjeux de sécurité, mais la question de, voilà, de
l'étendue de sécurité.
Ça, c'est pas évident. Voilà. Qu'est-ce qu'on met comme étant les tâches principales de ce pouvoir hétéronome, mais que le but de l'État, c'est de s'auto-limiter dans le pouvoir qu'il déploie sur les gens. Et donc, ce pouvoir hétéronome, il faut le réduire, il faut le limiter au strict nécessaire. Peut-être qu'on va faire des masques, enfin, peut-être qu'on va faire des hôpitaux, mais le strict nécessaire et pas juste la consommation de marchandises pharmaceutiques pour que les labos s'en mettent plein les poches. Donc, qu'est-ce qui est strictement nécessaire, qu'est-ce qui doit être pris en charge par le collectif, et en fait, permettent l'extension du domaine de l'autonomie. Donc, caricaturalement, c'est un peu l'expression de Marx entre le règne de la liberté par-delà le règne de la nécessité. Mais son argument sur la position de l'État, et si ça vous intéresse, c'est notamment dans Adieu au prolétariat, en fait, en 1980, qu'il développe le plus cette théorie de l'État. C'est un peu un État qui s'auto-limite, qui se vide un peu de sa substance pour permettre à différentes échelles de s'auto-organiser et de retrouver du pouvoir. On est aussi dans le contexte des années 80 où la décentralisation a le vent en poupe. Il y a plein d'articles de Gorce sur le fait que les maires ne peuvent rien faire parce qu'ils sont obligés d'aller mendier de l'argent à Paris. Il y a vraiment des articles de presse qui s'appellent comme ça. Les maires partent mendier à Paris. Donc l'enjeu, c'est de reprendre du pouvoir aussi sur les finances publiques, mais à différentes échelles aussi, pour permettre à ces acteurs publics-là de pouvoir faire quelque chose. Il est dans cette logique de décentralisation et d'auto-limitation du pouvoir central et fonctionnel. Alors, comment on fait avec ça aujourd'hui, dans l'ONU, dans le contexte de l'Union européenne, dans le contexte américain, je ne sais pas. Mais c'est avoir conscience des échelles, de la concentration du pouvoir, des effets induits par cette organisation matérielle-là du pouvoir et des conséquences que ça peut avoir, y compris voilà, des effets induits de la planification écologique. Bah, si c'est géré centralement par des organismes qui relèvent des services du premier ministre, bah, ça va être hyper technocratique, ça va être dépolitisé, on va parler que de voitures électriques, on va pas parler de sobriété et on va pas parler de qualité de vie, et donc toute la convention citoyenne climat, pouf, ça passe à la trappe parce qu'on s'en fout, et ça reste des enjeux d'ingénieurs qui pensent ça en termes de tonnes de CO2, de nombre de voitures électriques et de bornes, etc. Et en fait, l'échelle des enjeux écologiques auxquels on pense et les acteurs qui sont capables de la mettre en œuvre, ça a forcément des effets sur ce qui est dessiné à la fin, sur le projet politique aussi là-dessus.
Non, mais ça, alors là, on est en phase. Je pense que la question qui se pose centrale, c'est celle du fédéralisme et de la capacité de fonctionnement du fédéralisme, parce que l'imbrication des échelles, elle mène aussi à des spécialisations, à des déresponsabilisations et à une difficulté matérielle. Si on prend une logique autogestionnaire où on se dit qu'on essaye de se réapproprier du pouvoir et du pouvoir concret, sauf qu'on est limité par notre temps, on est limité par plein de choses. C'est pas la même chose quand on est jeune, quand on est plus âgé, quand on a des enfants ou pas, quand on a des personnes à charge ou pas, quand on pratique des activités ou pas. Et ce temps disponible, il revient quand même, et nous on le voit dans nos structures, on peut relever du fédéralisme, alors il n'y en a pas beaucoup, et même Solidaire en tant que tel est composé de certains nombres de structures fédéralistes, mais n'est pas fédéraliste directement au niveau de l'Union, même s'il y a plein de choses qui s'en approchent. Mais on voit des difficultés sur le qui décide réellement à la fin, qui a le temps, parce que c'est un des problèmes du fédéralisme, on fait confiance, mais comment on rend compte de ces mandats et comment on rend compte de la coordination. Et peut-être qu'aussi une évolution majeure dans le système productif par rapport au moment où Gorce écrit ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième mondialisation. Enfin, aujourd'hui, en termes d'échanges de marchandises, d'échanges dans le système de production, évidemment qu'il y a énormément de choses à revoir, mais le temps qui va falloir pour ça est compliqué, quoi. Enfin, voilà, y a énormément d'éléments de l'autonomie productive qu'on n'a pas en main, on n'a pas les clés. Donc ça nécessite de recréer les choses. Mais recréer, là, je peux faire le lien avec l'Alliance écologique et sociale. Quand on sort la proposition pour un plan de rupture et après de sortie de crise, enfin, ou avant de sortie de crise, après de rupture, il y a dedans, par exemple, un travail qu'on a fait avec la Confédération paysanne. Aujourd'hui, on pense qu'il peut créer 1 million d'emplois dans l'agriculture. Et pour être utile en termes de production agricole, pas pour faire de l'exportation de produits à l'autre bout du monde. Non, non, pour être utile socialement en termes de nourriture. Voilà. Ça veut dire quelque chose. Évidemment, ça va totalement à l'envers de ce qu'on subit en termes de politique agricole et de ce qui est porté de façon majoritaire par les autres syndicats agricoles. Je ne parle même pas de la coordination rurale, la percée de l'extrême droite dans ce milieu-là. Mais bon, ça existe, et c'est ça qu'on doit réussir à porter pour montrer que c'est possible. Alors, on parlait tout à l'heure de reconversion. Bon, si on veut créer des centaines de milliers d'emplois de production agricole, il va falloir pas qu'il y ait seulement des jeunes qui se disent « Tiens, c'est vers ça que je vais aller », mais aussi peut-être des gens qui font des choses qui sont totalement inutiles et qui pourraient trouver une utilité sociale bien plus importante.
Ce qui veut dire poser la question de comment on définit l'utilité sociale, qui la définit, et c'est poser la question, mais du coup aussi poser la question de quel enjeu démocratique on reconstruit. Pendant longtemps, ça a été, pas si longtemps que ça, mais en tout cas pour ce qui est de la gauche et de la gauche, y compris que Gorce a connu, ça a été le mot de l'autogestion, qui, avec, par ailleurs, hein, attention, des lectures totalement, enfin j'ai aussi travaillé dessus, et des lectures totalement diverses de ce qu'on entendait par autogestion, parce qu'on en parlait autant au Parti Socialiste que chez les anarchistes, que à la Ligue Communiste Trotskiste, etc. Et on a évidemment, et au PSU évidemment, et à la CFDT évidemment, mais il y a des familles quoi, de l'autogestion, c'est pas... Je voudrais vous faire rebondir d'ailleurs, mais juste là-dessus, parce que je pense que c'est révélateur de quelque chose, de comment est-ce qu'on pose la perspective. Si on prend le mot autogestion, moi j'ai fait une petite recherche simple là, récemment, vraiment simple. Hein. Je suis allé sur les sites des organisations syndicales et j'ai tapé autogestion dans les moteurs de recherche. Donc pour la CFDT, aucune suggestion, c'est ce qui sort. Hein. Voilà. Bon, je précise qu'il y a quand même un site des archives CFDT où, à mon avis, il y aurait quand même beaucoup plus de choses, puisque si on avait donné un site internet à la CFDT des années 70, là, il y aurait 400, 500, un millier peut-être même d'occurrences. Pour la CGT, un seul résultat. Voilà, et c'est une entreprise, un soutien à l'entreprise, une raffinerie de sucre iranienne qui avait dans ses revendications la question d'autogérer la raffinerie en 2018. Pour la FSU, bon, il n'y a pas de moteur de recherche sur le site de la FSU, il a fallu aller sur celui de l'Institut de recherche, où là, il y a 5 occurrences, c'est des intellectuels, c'est Michel Rayot-Sarcet, c'est Pierre Naville, Jean-Marie Pernaud, Stéphane Sirot et Patrick Chamoiseau. Et pour Solidaire, là, on a 55 occurrences. Bon, après, il faut dire qu'il y a un axe entier du cahier revendicatif de Solidaire qui s'appelle Socialisation, Autogestion et Démocratie. Et on trouve pas mal de choses, tu l'as évoqué, sur la grève de l'IP, qui est aussi un patrimoine de l'Union syndicale solidaire d'une certaine manière. Mais bon, au-delà du mot, ce qui pose un petit peu question, c'est, enfin vous pouvez aussi réagir là-dessus par ailleurs, mais c'est justement comment est-ce qu'on se ressaisit de cet enjeu démocratique dans le mouvement social, dans les organisations, pour dessiner, en fait, d'une certaine manière, un projet politique. Parce que là, très crûment, c'est peut-être ce qui manque à gauche, mais quand je dis à gauche, j'entends dans l'ensemble du spectre, social, syndical, politique.
Ben moi, je pense qu'il faut du temps. C'est ce qu'a commencé à dire Simon, mais il faut du temps et il faut un autre rapport au temps et au rythme. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps en train de courir après le prochain contrat, vous êtes pris dans des rythmes où vous ne pouvez pas vous engager dans différentes luttes, vous engager dans votre écosystème, dans différents types d'actions, enfin, que ce soit au travail, que ce soit sur les enjeux d'habitat, que ce soit la sécurité alimentaire, etc. Et donc, il faut du temps, il faut un rythme de travail ralenti, il faut une réduction radicale du temps de travail. Si on ne travaillait que 2 jours par semaine, on aurait du temps pour s'engager dans plein d'autres choses. On aurait, et ça, Gorce l'imagine aussi, qu'en fait, on ait une autre répartition des tâches pénibles dans la société, de sorte à ce que nos agriculteurs n'y soient plus à plein temps et qu'on puisse finalement alterner dans la prise en charge de certaines tâches. Je pense aux tâches de soins aussi. Plutôt que de spécialiser les gens en disant « Toi, à vie, tu es professionnel de l'agriculture, professionnel du soin et tu vas te casser le dos là-dedans », et ben en fait, peut-être changer la prise en charge sociale de ces tâches, déprofessionnaliser, déspécialiser. Ça va de pair avec sa technocritique aussi de la surspécialisation du marché du travail, qui implique que les gens se forment très tôt à certains métiers et on le voit dès l'orientation collège-lycée d'ailleurs. Et ensuite, ils spécialisent à vie et se cassent le dos à vie en termes de conditions de travail, etc. Donc, radicalement réduire notre temps de travail contraint, que ce soit par la réduction de la durée hebdomadaire du travail, que ce soit par une retraite beaucoup plus tôt, par une protection sociale qui est décorrélée de l'emploi, par la possibilité d'avoir des congés tout au long de sa vie. Alors ça, c'était le grand débat dans les années 80. Il y a un sociologue allemand qui s'appelle Klaus Hoffe qui proposait qu'on puisse prendre 10 années de congés sur toute une carrière avant la retraite et que ça puisse permettre de se reconvertir, d'élever un enfant, donner un coup de main à la MAP du coin, etc. Et 10 années sur lesquelles on n'a pas à se justifier. Ça, c'est l'angle libertaire que je trouve très important, parce que s'il faut remplir les papiers de la CAF, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. En fait, on a les mêmes problèmes qu'avec le RSA, le contrôle social de l'État aujourd'hui. Donc, reprendre du pouvoir implique d'avoir du temps pour le faire. C'est la condition matérielle. Le temps, c'est hyper important. Et c'est pour ça que décélérer, ralentir, réduire radicalement ce temps qu'on passe à nos activités productives économiques contraintes dans le cas de l'économie actuelle, c'est une condition. Et donc, ce faisant, je pense qu'il faut se méfier d'un certain discours de « il faut absolument travailler plus, relever les manches, etc. pour sauver la planète et compagnie ». Souvent, ce discours, il est porté par des personnes qui sont retraitées, qui ne sont pas concernées par ça. Moi, j'ai 30 ans, et quand on me dit qu'il faut me retrousser les manches pour sauver une situation qui n'est pas de mon fait, zut quoi. Enfin voilà, dans la gestion des responsabilités, c'est pas un horizon qui fait envie quoi. Si vous voulez embarquer les gens, notamment les gens qui souffrent de leurs conditions de travail actuelles, c'est pas en leur disant que vous allez travailler plus, mais que c'est pas grave, ça va être au soleil dans l'agriculture, enfin qu'en fait ça va donner envie. Donc travailler moins, réduire le temps de travail, réduire la charge de travail, désintensifier le travail, c'est le seul horizon souhaitable pour les travailleurs et les travailleuses. Alors pas pour le capital bien sûr, mais du coup faut assumer ce rapport de force là et le fait que c'est cette sobriété du travail, ça va pas plaire. Et donc, c'est un enjeu de rapport de force aussi.
Ouais, bon, on est forcément très très d'accord sur ce sujet-là. Évidemment, la question du temps. Alors, le problème, c'est comment y arriver, parce que pour réussir à travailler 2 jours par semaine en étalant tout, il va falloir quand même un sacré niveau de rapport de force et qui en plus se construit pas, même pas à une échelle juste nationale, parce que nous-mêmes, nos structures, notre alliance écologique et sociale ou les structures qui participent sont dans des réseaux internationaux, évidemment, mais on fonctionne à une échelle nationale. Et on voit bien que c'est limité par rapport à un capitalisme qui, lui, joue à l'échelle mondiale, quoi. Maintenant, reprendre du temps, ça passe par pas mal de choses. On parlait de la grève tout à l'heure, enfin vite fait, on l'a évoqué comme ça, mais une grève, ça peut être, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, nous, comme la façon dont on l'a construit, cette réappropriation du temps, ce temps qu'on libère, ce temps pour réfléchir, ce temps pour agir, cette réappropriation qui, parfois, fait que, malgré une défaite sur le plan des revendications, a apporté énormément à un collectif qui a réussi à s'engager et permet de faire germer des graines de perspective. Voilà. Bon, là, on peut reprendre les trucs de la même époque, quoi. L'an 01, on arrête, on réfléchit, je ne sais plus exactement, mais c'est pas triste, quoi. On s'arrête, c'est pas triste, un truc du genre. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, et je ne sais pas si ça a bien vieilli, mais en tout cas, il y avait quand même aussi dans cette idée, arrêtons cette machine, posons-nous. Maintenant, dans le concret du quotidien, pour beaucoup de gens qui bossent, qui sont happés par des dynamiques de vie, quoi, se dire oui, bah là, il faut que j'aille vite, il faut que je puisse me nourrir, il faut que déjà que j'arrive à avoir un boulot, il faut que j'arrive à avoir un boulot assez décent au niveau du salaire, etc. C'est compliqué. Donc, le partage des richesses, c'est ce qu'on doit poser pour dire oui, en fait, c'est possible. La réduction du temps de travail est possible parce qu'en fait, on produit les richesses. Maintenant, on nous les vole. Donc maintenant, comment on répartit ces richesses qui sont volées? Parce qu'aujourd'hui, réellement, sur cette terre, tout le monde pourrait vivre bien, décemment, mais vraiment tout le monde. Par contre, ceux qui ont deux yachts, trois jets, pour prendre le truc un peu maximaliste, mais même déjà ceux qui ont deux SUV et trois baraques, bon, bah, désolé, déjà, il n'y aura plus de SUV, quoi. Et peut-être vous n'avez pas du tout besoin de trois baraques parce qu'on va faire des transformations qui vont être autre chose. C'est aussi, il faut le dire, donner du temps dans le collectif pour réfléchir à ça. Parce que si nos structures associatives, et ça syndicales ou politiques, mais en l'occurrence moi pour les structures syndicales, ne prennent pas un temps de leur discussion à réfléchir cette possibilité-là, on est tout le temps happé par des urgences. On est tout le temps happé par le timing et le tempo que nous imposent les autres, les puissants, ceux qui nous dominent, ceux qui nous exploitent. Ok. Il faut qu'on arrive à réfléchir comment on peut se réapproprier du temps, comment on peut se donner des moyens pour aller plus loin. Parce que si on ne commence pas par ça, bah, on ne risque pas de trouver l'ouverture qui nous mène au bout du tunnel. Et le bout du tunnel, il est possible. Et l'horizon d'un futur bien meilleur, il est possible. D'ailleurs, ce qui a été dit il y a quelques dizaines d'années est toujours bien valable. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une période qui peut sembler d'écrasement qu'il faut se sentir écrasé. Il y a des solutions de sortir et l'alternative au fascisme, c'est bien... une société meilleure, idéale à construire.
Socialisme ou barbarie.
Exactement.
Parfait, parfait. Bah écoutez, on arrive un peu au terme de l'émission. On va rester sur cette idée, effectivement, de temps qu'il faut politiser d'un point de vue autogestionnaire et puis, effectivement, avec qui serait, je le dis, je crois, dans le livre, une condition du communisme, presque, ce qui nous va très bien à contre-temps.
Contre-temps.
Et en plus, merci Simon, merci Céline, merci beaucoup.
Merci,
on
n'a
pas eu
le
temps de traiter toutes les questions hein, autour de Gorce, donc bien évidemment, ce n'était pas faisable de toute façon. Mais vous pouvez bien sûr vous procurer le petit livre de Céline, Découvrir Gorce hein, aux éditions sociales, L'écologie libertaire d'André Gorce, donc aux presses universitaires de France. Allez sur le site de l'Alliance écologique sociale et de l'Union syndicale solidaire et des autres organisations syndicales, du mouvement social, etc. Et pour ce qui est de contre-temps, vous pouvez nous suivre sur notre site internet, sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur Blue Sky où nous avons un compte notamment. Et la même chose pour la plateforme Spectre qui accueille l'ensemble de nos podcasts. Merci et à très bientôt. Spectre.